ça m'a toujours beaucoup étonné de voir qu'effectivement dans un pays comme la France où très peu de gens pratiquent encore, disons en allant à la messe le dimanche par exemple, le nombre de baptêmes ou de mariages qui ne cesse de diminuer, on accorde vraiment beaucoup d'importance à ce que va pouvoir dire le pape. Il suffit de regarder tout l'événement qu'a constitué la sortie du livre de Benoît XVI, Lumière du monde. Donc je crois que le pape continue à jouer un rôle, une sorte de guide, de lumière, de prise de position franche et libre sur la direction que devrait prendre la société. Le rôle de l'Église, c'est de dire ce qui aide à la construction personnelle et de désigner d'autres choses qui n'aident pas et de dire que tel ou tel comportement social, que ce soit dans le domaine de l'économie, politique, dans le domaine de la sexualité ou de la science, va aider ou non à aller vers plus d'amour et de liberté personnelle et aussi au niveau de la société. Et je crois que là, on attend encore vraiment la voix de l'Église parce qu'on sait qu'elle n'est pas liée aujourd'hui à des courants politiques, à des courants économiques ou à la puissance financière.
Alors, abordons désormais la première question, disons sensible, ce sont les richesses du Vatican. Donc, c'est une question, vous écrivez, qui excite, qui intrigue. Alors, le Vatican est-il réellement riche?
Alors, tout dépend de ce qu'on appelle la richesse. Pour ce qui concerne le patrimoine artistique, c'est indubitable que le Vatican est extrêmement riche au sens où il possède un patrimoine superbe, la basilique Saint-Pierre, d'autres basiliques à Rome. Mais tout ça, c'est des biens qui sont inestimables. On peut jamais mettre sur le marché le baldaquin de Saint-Pierre, par exemple. Qui irait acheter ça? Et c'est le fruit de l'histoire de tous les artistes que l'Église a su faire travailler au cours des siècles. Et ça, c'est des bâtiments qui sont ouverts à tout le monde, qui sont accessibles. Voilà une richesse qui est partagée. Après, pour ce qui est purement du domaine financier, le budget du Vatican, qui est séparé de celui du Saint-Siège, est extrêmement petit. En fait, ils sont tous les deux assez petits. On estime le budget de l'État de la Cité du Vatican à 150 millions d'euros à peu près par an et celui du Saint-Siège à 240 millions d'euros par an. Par rapport au budget de la France, par exemple, c'est ridicule. Ensemble, ça fait 0,1% du budget français. Donc vous voyez, on est vraiment sur des montants très petits. On a l'impression que parce qu'il y a des calices en or, des beaux vêtements liturgiques, le Vatican est riche. Bon, ce sont des choses qui sont héritées de l'histoire et qui ne sont la propriété personnelle de personne, en fait.
Alors, vous abordez également la question de la place des laïcs dans l'Église. Alors, on sait que le Concile Vatican II a reconnu et a tenu à promouvoir leur rôle dans l'Église. Mais en revalorisant le laïcat, l'Église s'attendait-elle à voir des laïcs se positionner comme force de proposition, voire en lobbying contestataire?
Des laïcs comme force de proposition dans l'Église, il y en a toujours eu. Il suffit de regarder, par exemple, au Moyen-Âge, Sainte Catherine de Sienne, qui était une tertiaire dominicaine, était cependant une laïque, elle n'était pas une moniale, et c'est elle qui a convaincu les papes de venir d'Avignon jusqu'à Rome. Au XXe siècle, on assiste avec l'éducation populaire qui est de plus en plus grande dans les États européens, puis aux États-Unis, puis dans d'autres parties du monde, à ce qu'émerge un laïcat conscient de ses devoirs dans le monde, et donc prêt à agir dans le domaine économique et politique, et aussi à proposer des choses à l'Église. Alors, le Vatican a parfois émis des mises en garde contre certains de ces groupes qui prenaient trop de liberté. C'était le cas avec la condamnation de l'Action française, par exemple, dans les années 20 et 30 en France. Alors aujourd'hui, on a beaucoup de groupes de laïcs qui continuent à agir pour qu'avance telle ou telle cause qui leur est chère. Après, je crois qu'il faut se rendre compte qu'au Vatican lui-même et au Saint-Siège, il y a énormément de laïcs qui travaillent. Parfois, on a l'impression que ce sont seulement des religieux. Pas du tout, en fait. Notamment dans l'État de la Cité du Vatican, la grande majorité des employés sont des laïcs. Donc, je crois qu'il y a une collaboration qui se passe. Et puis, là-dessus, c'est vrai qu'il y a une culture encore relativement cléricale. Mais je crois que de plus en plus, on voit des laïcs arriver au Vatican, des femmes notamment. Et donc, assumer des missions et des responsabilités d'Église.
Autre question, et sûrement c'est celle qui fait le plus débat dans nos sociétés occidentales en tout cas, c'est celle de la morale. Alors, le Vatican promeut-il une morale dépassée qui n'est pas ou plus en phase avec la réalité?
Souvent, en fait, on voit la morale de l'Église, et d'abord, en fait, le terme « morale » lui-même paraît assez négatif, comme s'appliquant uniquement à ce qui paraît le plus croustillant quand on parle dans les médias, à savoir la morale ou l'éthique sexuelle et familiale. Et c'est sûr que dans ce domaine, il y a un très très grand contraste entre ce que l'Église peut promouvoir, ce dont on a l'impression que l'Église parle, et la réalité que vivent les gens. Mais en fait, la morale de l'Église est beaucoup plus large que ça. Elle concerne aussi la vie économique, la vie politique, Et finalement, là, on va oublier, par exemple, que l'Église a lutté, que ce soit dans les pays communistes ou sous les dictatures latino-américaines, a lutté pour les droits de l'homme en mettant vraiment la personne humaine au centre des croyances catholiques, disons, au centre de ce qui doit faire l'action humaine. Et finalement, l'action humaine, c'est ça, la morale. Je crois que l'Église ne pourra jamais dire qu'est bonne une chose dont elle estime qu'elle est profondément opposée à la liberté humaine et au bonheur, sur des questions aussi délicates.
Alors, pour conclure notre interview, on peut désormais aborder la question des médias. Alors, vous écrivez, les médias du Vatican souffrent d'être soit totalement ignorés, soit vus comme poussiéreux, soit enfin considérés comme des outils de propagande.
Moi, ce qui m'a vraiment très positivement surpris quand j'ai travaillé à Radio Vatican, c'est la liberté avec laquelle on pouvait travailler et parler des nouvelles dans le monde. Parce que finalement, en fait, le radiojournal de Radio Vatican présente une vue du monde qui n'est pas exclusivement centrée sur la France, ses intérêts économiques. Je trouve qu'on est vraiment à un autre niveau de regard sur le monde. Et c'est peut-être d'abord ça que peuvent amener les médias catholiques, et en particulier les médias du Vatican, c'est de poser un regard neuf sur le monde, et ça demande un effort, en fait, d'avoir tous les jours un regard neuf qui soit pas seulement focalisé sur les catastrophes, sur ce qui va pas. Après, le Radio Vatican a la mission d'être la voix du pape et donc de diffuser les messages qui viennent du Vatican. Et je trouve ça vraiment bien quand les journalistes peuvent préparer, aussi bien pour les auditeurs que pour les internautes, des explications des encycliques qui sortent ou d'autres documents, parce que parfois, le Saint-Père est obligé de s'exprimer assez rapidement, en fait, avec des formules concises et qui contiennent derrière tout un arrière-pays de traditions catholiques qu'on a depuis longtemps. Et c'est justement la mission des journalistes, des médias du Vatican, de pouvoir développer tout cela et l'expliquer mieux au monde, pour pas qu'on en reste aux petites phrases choc que parfois les agences de presse retiennent sans trop savoir de quoi on parle.